franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et pour la troisième année consécutive, les émissions mondiales de CO2 quasiment stagnantes, un premier pas vers la baisse nécessaire à maintenir donc le monde en dessous des 2 degrés de réchauffement. On en discute avec vous, Corinne Le Quéré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis la Californie, vous êtes directrice du centre Tyndall et auteur principal de ce rapport établi par l'université d'East Anglia en Angleterre. Et puis dans ce studio donc avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire de reporter.net. Hervé, les chiffres depuis 3 ans montrent clairement, donc on peut dire, une rupture dans les émissions de CO2, c'est une bonne nouvelle pour le climat ?
Oui, tout à fait. En ces temps de trompitude aiguë, c'est une très bonne nouvelle que les émissions de carbone se stabilisent. Alors, 3 ans, plus exactement, une stabilisation en 2014 avec une hausse estimée à 0,7%, donc 13 ans en dessous du rythme qui existait depuis plusieurs années, qui était de l'ordre de 1,8%. Cette année, plus 0,6% en 2015, une quasi-stabilisation, et les projections pour 2016 qui seront encore inférieures à peut-être plus 0,2%. C'est une bonne nouvelle, ça signifie qu'il y a un découplage avec la hausse du PIB mondial, du produit intérieur brut mondial. En tête de ce palmarès, la Chine, qui est toujours le premier émetteur mondial avec 29% des émissions de CO2 dans le monde. Elle a beaucoup réduit sa consommation de charbon. Ensuite, les États-Unis à 15%. L'Europe à 10% des émissions globales, qui augmente légèrement son taux d'émission. Et puis l'Inde, qui représente maintenant 6%, ça devient significatif et augmente très nettement son émission. Une moins bonne nouvelle pour conclure, l'absorption par les puits de carbone, c'est-à-dire surtout les forêts, ont été moins efficaces que les années précédentes à cause du phénomène El Niño.
Axel.
Alors Corinne Le Quéré, pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100, est-ce qu'on peut se contenter d'une stagnation des émissions ?
Ah non, pas du tout. Bien que c'est une bonne nouvelle, une stagnation, il faut maintenant que les émissions diminuent. En fait, pour stabiliser le climat, il faut que les émissions soient presque zéro. Alors, on a bien commencé là les 3 dernières années, mais il faut vraiment renverser les tendances.
Quand vous dites qu'il faut qu'elles baissent et qu'elles atteignent zéro, quelles sont les échéances de ces chiffres?
Baisser le plus rapidement possible. Donc là, on est presque à zéro de croissance. Il faudrait que les émissions baissent là 1% par année d'ici 2030 et ensuite avoir 2-3% et zéro, on pense, entre 2050 et 2100, donc plusieurs décennies dans l'avenir, mais c'est vraiment la barre, à l'objectif à atteindre là d'ici quelques dizaines d'années.
Hervé l'a dit, l'Union européenne est l'un des seuls gros émetteurs avec l'Inde à avoir ses émissions augmentées cette année. Est-ce qu'on est en retard par rapport à la Chine et aux États-Unis? Et
oui, effectivement, une surprise à l'Union européenne. Les émissions en Union européenne avaient diminué les 10 dernières années. On pense que c'est une anomalie tout simplement cette année parce que en 2014, la baisse avait été particulièrement raide. Donc, c'est un rebond. On pense temporaire. Il faudra voir l'année prochaine.
Hervé.
En revanche, la Chine alors fait des progrès très significatifs, mais en même temps, il y a une forte incertitude sur ces chiffres. Je crois que, enfin, j'en suis sûr, dans votre article, vous estimez l'incertitude sur les statistiques chinoises à 10%. Est-ce que ça ne fait pas peser un doute sur l'ensemble de votre travail très considérable?
En effet, les incertitudes des émissions en Chine sont très considérables. Par contre, le changement d'émissions d'année en année est beaucoup plus facile à contraindre que les émissions absolues. Donc, faut voir que l'incertitude est surtout par rapport à la qualité du charbon qu'on brûle, par exemple. Mais si on voit qu'il y a une diminution du montant du charbon qui est brûlé d'année en année, là, on peut dire quelque chose par rapport aux tendances. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire en Chine pour améliorer là les rapports énergétiques.
Vous doutez de la véracité des chiffres, Hervé ?
Ah non, moi je doute pas du tout de la véracité, je pose la question parce que c'est un problème depuis plusieurs années.
Pour vérifier
ces questions.
Les chiffres. Hein.
Voilà, mais c'est évidemment Mme Le Quéré qui sait nous dire ce qu'il faut en penser.
Non, effectivement, bon, il y a beaucoup de révision des chiffres en Chine, mais il y a aussi en même temps beaucoup d'efforts qui sont faits pour augmenter les statistiques et augmenter les efforts de vérification externe. On peut pas, par contre, vérifier indépendamment les émissions rapportées au niveau des pays, pour aucun pays en fait, même la Chine ou les pays européens. Bien que dans les pays riches, il y a beaucoup de taxes qui sont imposées, par exemple, sur les utilisations énergétiques. Donc, les statistiques sont très fiables.
Est-ce que les vagues de pollution auxquelles sont confrontés les Chinois vont accélérer la transition en Chine ?
Tout à fait. Les mesures pour réduire la pollution et augmenter la qualité de l'air ont aussi comme effet de réduire les émissions. On voit ça déjà en Chine, qu'il y a des effets sur les émissions. Et je pense que probablement très bientôt, on va commencer à voir les mêmes effets en Inde, où il y a eu récemment beaucoup de problèmes de pollution atmosphérique.
Corinne Le Quéré, Hervé Kempf le disait tout à l'heure, dans votre rapport, vous montrez que l'efficacité des puits de carbone, que sont les océans, la végétation et l'atmosphère, sont en train de diminuer. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, cette année en particulier, donc on parle de 2015-2016, il y a eu un gros événement El Niño, qui est un événement naturel qui augmente la température mondiale très rapidement pendant une année, qui est associé avec des conditions très sèches. Et on voit que le puits de carbone qui nous aide, qui réduit qui absorbe le carbone chaque année dans les forêts, a diminué cette année. Donc, on voit ça avec des mesures atmosphériques et c'est vraiment la réponse des forêts à la sécheresse et à la température très chaude qui fait en sorte que le puits de carbone est moins efficace cette année.
Un petit mot au sujet des États-Unis. Est-ce que l'élection de Donald Trump va vous faire revoir les prévisions en termes d'émissions jusqu'en 2020 pour les États-Unis?
L'élection de Donald Trump, effectivement, la brise l'élan pour adresser les changements climatiques. Les États-Unis étaient vraiment ont vraiment aidé les dernières années. Je pense que c'est à voir s'il y a d'autres dirigeants politiques qui vont prendre la place des États-Unis et qui vont aider aux politiques internationales. On va voir à Marrakech cette semaine, en fait.
Est-ce que les émissions pourraient carrément réaugmenter aux États-Unis alors qu'elles ont baissé cette année?
C'est possible, bien que les États-Unis, les émissions ont aussi diminué les 10 dernières années. Et ça, c'est des facteurs d'augmentation de l'efficacité. On adresse aussi des mesures de la qualité de l'air aux États-Unis. Je pense que Donald Trump peut renverser les tendances, mais faire augmenter carrément les émissions, et ça va prendre du temps. Au niveau global, c'est sûr que l'élan est brisé, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites au niveau de plusieurs gouvernements, au niveau des villes, et je pense que ça va continuer.
Merci beaucoup en tout cas Corinne Le Quéré, vous étiez en ligne donc depuis la Californie pour nous faire part des derniers chiffres importants sur les émissions globales et mondiales donc de CO2. Hervé, on retrouve ces informations bien sûr sur reporter.net et on se retrouve lundi.
Avec plaisir,
merci,
au revoir.
À demain, Axel.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, et si la canneberge, appelée communément cranberry, n'avait pas d'effet sur les infections urinaires, en tout cas pas plus qu'un placebo, des chercheurs de l'université de Yale ont suivi pendant un an 185 femmes souffrant d'infections urinaires régulières. La moitié a donc reçu des gélules de cranberry quotidiennement, l'autre un simple placebo. Les résultats ne permettent pas de voir de différence significative d'action entre ces deux groupes. Les chercheurs notent que le seul intérêt des jus de canneberge est qu'ils incitent surtout à boire plus, ce qui est essentiel en cas d'infection. Ce soir, ne manquez pas le spectacle de la super lune, deux phénomènes rares qui vont s'additionner pour offrir à nos yeux une lune particulièrement grosse dans le ciel. Notre satellite sera à la fois au plus proche de la Terre, 356 000 km, ce qu'on appelle le périgée, au même moment que la lune sera pleine, un spectacle particulier qui n'avait pas été visible sur Terre depuis le 26 janvier 1948. Les meilleurs moments pour apprécier cette super lune sont le lever et le coucher, respectivement à 17h45 et 7h50, aujourd'hui et demain. Et puis pour terminer, notez que samedi, la Société française de physique et la Bibliothèque nationale de France vous invitent à la 15e rencontre physique et interrogations fondamentales sur le thème la science, l'information, la connaissance. Une rencontre qui place l'information au cœur d'un questionnement sur la science telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Au programme des conférences, des débats, une table ronde entre autres avec l'informaticien Gérard Berry et l'astrophysicien Alain Riazuelo. Les inscriptions se font sur le site de la Société française de physique qui est en lien sur le Facebook de la Tête au Carré.